Nous sommes allés rencontrer Camille Froidevaux-Métrier à l'Arsenal de Metz. C'est une rencontre exceptionnelle et rare avec une chercheuse philosophe féministe engagée.
Je m'appelle Camille Froidevaux-Métrier, je suis professeure de sciences politiques à l'Université de Reims et je suis aussi philosophe et même philosophe féministe. Je travaille depuis des années sur des thématiques qui concernent le corps des femmes. J'ai travaillé sur la question de la grossesse, sur la question des seins, mais plus largement sur tous les sujets qui concernent l'existence des filles et des femmes, parce que je m'intéresse vraiment aux origines en fait du corps des femmes, donc aussi à vos âges, au moment où on commence, on est dans la prépuberté, voire la puberté, c'est-à-dire le moment où on commence à penser aux premières règles, etc. Et en ce moment, j'ai un projet de travail et de recherche sur la question du vieillissement du corps des femmes. Et c'est dans ce cadre que je suis ici à Metz, à l'Arsenal, parce que je collabore avec une chorégraphe. Est-ce que vous savez ce que c'est une chorégraphe ?
Une personne qui crée les danses.
Exactement. C'est une personne qui crée et qui monte des pièces de danse. En l'occurrence ici, c'est de la danse contemporaine. Et elle avait le projet de créer une danse autour de la question du vieillissement, justement. Et elle a convié 5 danseuses contemporaines, qui sont des professionnelles, hein, qui travaillent depuis des années, mais qui ont toutes autour de 50 ans. Parce que 50 ans, c'est vraiment le virage qui m'intéresse. Voilà. C'est le virage aussi à partir duquel, globalement, dans la société, on a tendance à considérer que les femmes ne servent plus à grand-chose et, que, voilà, et qu'on les invisibilise. Et donc, cette chorégraphe, qui s'appelle Marie Barbotin, qui est de Reims, a monté ce projet de cette pièce et elle m'a demandé d'écrire le texte de la pièce et de faire aussi des entretiens avec les danseuses. Comme ça, moi, c'est aussi un matériau de recherche. Quand on fait de la recherche, en philosophie et en sociologie, on fait des enquêtes pour recueillir des récits, des témoignages de personnes pour essayer de mieux comprendre ce qu'on étudie. Et donc, j'ai écrit un texte. Là, on est assez avancé dans le projet. On a commencé en juin dernier. Et la pièce de danse va être créée à Strasbourg à la mi-janvier et elle sera jouée ici, à l'Arsenal de Metz, le 19 mars 2026. Et donc, j'ai écrit un texte, disons un peu... C'est comme un corps qui parle. J'ai écrit un texte comme si c'était un corps de femme de plus de 50 ans, mais qui représente tous les corps de toutes les femmes de plus de 50 ans qui parlent, et donc c'est un récit un peu poétique. On a enregistré ce texte en studio d'enregistrement. C'est une comédienne qui s'appelle Anouk Grimbert qui a joué ce texte. Et puis j'ai fait aussi des entretiens avec les danseuses. Et les danseuses vont dire quelques phrases, il y a quelques moments où elles parlent au plateau, entre des moments où elles dansent. Voilà pour ce qui explique mon séjour ici toute cette semaine. On appelle ça une semaine de résidence de création pour la pièce, mais pour moi c'est aussi une résidence de recherche.
Avez-vous déjà fait preuve de sexisme ?
Waouh, c'est une très belle question. Parce que, avez-vous déjà fait... Ouais, ça veut dire que c'est pas parce qu'on est une femme, un, et c'est pas parce qu'on est féministe, deux, qu'on n'est pas soi-même, d'abord, qu'on n'a pas soi-même été éduqué, plongé en quelque sorte dans ce bain du sexisme, et que du coup, qu'on n'est pas... Il peut arriver, en effet, qu'on ait des comportements ou des paroles sexistes. Alors, je vais commencer par celle dont je suis la moins fière, et l'autre, elle est plus simple à raconter. Mais la première, c'était donc, il y a plusieurs années, donc j'ai écrit un livre sur les seins des femmes. Et j'ai été invitée dans une émission à la radio pour en parler. Et avant moi, il y avait un autre auteur qui était invité pour parler d'un livre qu'il avait écrit lui. Et sur les réseaux sociaux, j'ai voulu annoncer le fait que j'avais été interviewée pour ce livre. Et j'ai fait une réflexion. Il se trouve que cet auteur, il était homosexuel. Je le savais, et puis enfin, tout le monde le savait. Enfin, c'est quelque chose qui était très public. Et j'ai trouvé une phrase pour annoncer que j'avais été interviewée pour mon livre sur les seins, dans laquelle j'ai dit, et juste avant moi, il y avait un tel, cette personne. Comment j'ai dit ça ? J'ai dit une phrase qui disait, à propos des seins, et qui disait, mais qui n'en a pourtant rien à faire. Entendez, dessin. Et sous-entendu, parce qu'il est homosexuel. Donc il n'est pas intéressé par avoir des relations avec les femmes. Et ça, on m'a fait remarquer très vite, tout de suite, on m'a dit, mais tu te rends compte de ce que tu dis ? Tu es en train de faire une réflexion, tu es en train d'évoquer la sexualité de cet auteur, et en disant qu'il n'en a rien à faire des seins des femmes parce qu'il est homosexuel, est-ce que tu te rends compte à quel point c'est sexiste ? En fait, ce que je faisais, c'était que d'une certaine façon, je le critiquais. C'était pas volontaire, mais quand même, c'était quand même. Je le critiquais ou je disais quelque chose de pas très positif sur le fait qu'il était homosexuel en lien avec cette question des seins des femmes. Et je me suis. Enfin, j'étais pas fière de moi du tout. Donc j'ai retiré évidemment mon petit post là. C'était à l'époque sur. J'étais sur Twitter, je l'ai quitté quand Trump a été réélu. De Musk, peu importe, mais voilà, ça c'est vraiment la chose sexiste que j'ai faite. Alors, vous pouvez vous dire, mais est-ce que c'est sexiste parce que c'est en fait c'est un homme et bon. En fait, le sexisme, ça concerne aussi toutes les réflexions et les agressions qu'on peut faire à des personnes en raison de leur sexualité. Donc c'est en raison de leur sexe, de leur genre ou de leur sexualité. Et tous les mots et tous les actes agressif et violent concernant une personne en raison de son sexe, de son genre ou de sa sexualité, sont sexistes. Donc ça, c'était. Et l'autre exemple, c'est moins grave et bon, mais quand même, c'était au moment du confinement. Donc on était réunis en famille tous les quatre. Donc vous avez compris, j'ai un fils et une fille. Et ma fille est venue me voir. Donc à l'époque, elle avait 14 ans. Et donc son frère, il a 4 ans de plus qu'elle. Il avait 17, 18 ans. Et elle m'a dit, mais tu sais, maman, j'en ai un peu marre parce que je suis obligée de faire les lessives pour laver les vêtements de Adam parce que il sait pas faire une machine de linge. Et là, je me suis arrêtée et j'ai réalisé que ma fille, elle savait très bien lancer une lessive, elle connaissait les programmes de la machine, elle savait étendre le linge et tout. Mon fils, qui avait 4 ans de plus qu'elle, il en était incapable. Pourquoi? Parce que j'avais jamais pensé tout simplement à lui apprendre, alors qu'à ma fille, je lui ai appris. Pourquoi? Parce qu'il se trouve qu'à la maison, c'est plutôt moi qui m'occupe du linge et c'est mon mari, lui, s'occupe du ménage, c'est lui qui passe l'aspirateur, par exemple, parce qu'on s'est réparti les tâches. Mais pour autant, ce n'était pas une raison pour faire... Enfin, mon fils, il va avoir besoin dans sa vie, là, il vit seul maintenant depuis 3 ans, bah, il s'occupe de son linge. Alors, en l'occurrence, il va à la laverie automatique, pour l'instant, il n'a pas de machine, mais quand même. Et donc, on a fait une séance... Enfin, c'est ma fille Rose, elle est allée chercher son frère, elle dit viens voir, je vais t'expliquer, elle lui a expliqué, et moi je me suis dit mais en fait, même dans une famille féministe, parce qu'il trouve que mon mari aussi est féministe, il fait des documentaires féministes, etc., y a des choses qui nous échappent, et on ne s'était jamais dit, moi j'étais très soucieuse par exemple d'apprendre à mon fils à faire à manger, j'avais même imaginé un petit stratagème qui a très bien marché, quand il avait 10 ans, je lui ai dit qu'un soir par semaine on allait cuisiner ensemble, et que quand il serait prêt, bah c'est lui qui cuisinerait tout seul. Donc il était hyper content, c'était un peu un challenge. Et du coup, il a cuisiné, et maintenant il cuisine très bien, il fait notamment très bien des gâteaux et tout ça. Mais par exemple, s'occuper du linge, le laver, le plier, le ranger, et je ne lui ai pas appris. Et je suis désolée, j'ai pu constater, maintenant qu'il vit seul, quand je vais chez lui, je dis rien, je me mords l'intérieur des joues, parce que je vois ses habits en boule, partout. Enfin, c'est un truc qu'il ne sait pas faire. J'ai raté ce truc-là.
Depuis quand êtes-vous féministe?
Alors, ça aussi c'est une bonne question parce que j'ai pas toujours été féministe. Je suis entrée en féminisme par la maternité justement, dans ma trentaine. Moi, je suis née en 1968, je fais partie de cette génération de femmes à qui on a dit, enfin moi c'est ce que mes parents m'ont dit, allez-y les filles, faites des études, rêvez tous vos avenirs, faites ce que vous voulez. Donc c'est ce que j'ai fait des longues études, j'ai fait Sciences Po, après j'ai fait un doctorat, après j'ai passé une agrégation, tout ça pour devenir professeur d'université. Et je suis donc devenue professeur d'université, enfin vous allez voir justement un moment précis. Et pendant tout ce temps-là, moi ce que je voulais c'était avoir mes diplômes, finir ma thèse, etc. Et donc je repoussais le moment d'avoir un enfant. J'étais en couple depuis l'âge de 25 ans et je suis arrivée, donc à 30 ans, j'ai soutenu ma thèse, et ensuite j'ai mis 4 ans avant d'avoir un poste à l'université. Donc c'était des années difficiles, parce que j'avais pas de poste, donc pas de salaire, etc. Et puis surtout, j'étais allée jusqu'au bout, j'avais fait un doctorat, j'étais en couple depuis 5 ans, et on avait envie d'avoir un enfant. Mais on se disait, il faudrait mieux attendre que j'ai un poste avant d'avoir un enfant, parce que je suis mariée avec un homme qui a une profession artistique, donc lui, il avait pas de salaire, donc on se disait, ça serait bien que j'ai un poste, moi, pour... Vous voyez, le monde nouveau aussi, c'est ça. C'est les femmes qui vont. Et en fait, le temps passe, une année, deux années, puis j'avais pas de poste, parce que c'est difficile d'obtenir un poste à l'université. Et puis, arrive un moment où on se dit avec mon mari, tant pis, on lance le projet d'enfant, puis on verra bien ce qui se passe. Et puis là, donc, j'ai une première grossesse, et je fais ce qu'on appelle, mais j'aime pas le mot, fausse couche. et qu'on dit, dans, nous on préfère dire, les féministes, on préfère dire arrêt naturel de grossesse. C'est quelque chose qui est très très fréquent, c'est quand la grossesse s'interrompt pendant le premier trimestre, on ne s'en rend pas forcément compte tout de suite, et c'est une, enfin, moi ce qui m'est arrivé, on fait une première échographie, c'est là qu'on s'est rendu compte que la grossesse était arrêtée et que donc, en fait ça veut dire qu'elle ne se développe plus. Donc ça a été un grand choc parce que c'était ma première grossesse. En plus, je l'ai appris au bout de 3 mois. Donc nous, on était vraiment, voilà, on pensait. Et là, ça a été aussi un choc social parce que je me suis rendu compte que donc j'ai dû subir une petite opération, etc. Bon. Et là, tout le monde m'a dit, oh, ben, c'est pas grave, vous allez recommencer. Voilà. Puis comme si c'était rien passé. Alors que moi, dans ma vie. C'était un énorme choc, j'étais très triste, mon mari aussi. Et ce que j'observais, c'est qu'au niveau de la société, en fait, il n'y avait aucune considération. C'est-à-dire, ok, en gros, la machine n'avait pas fonctionné, c'est pas grave, on allait la redémarrer, et puis ça allait marcher la deuxième fois. Donc ça a été un premier petit électrochoc. Et puis le deuxième, donc là, je me suis dit, mais quand même, c'est dur, quoi, ce qu'on doit vivre en tant que future mère, etc. Et le deuxième choc, ça a été ma deuxième grossesse, qui a été jusqu'à son terme, donc... J'ai mon fils qui est né, donc c'est un 2002, comme vous dites, donc il a 23 ans. Là, le hasard de la vie a fait que j'ai été enceinte de lui et j'ai été recrutée à l'université. Et j'ai commencé mes cours et mon fils, il avait 6 semaines. Et donc, c'était vraiment un énorme bouleversement dans ma vie parce que je devais donner mes cours, préparer mes cours pour la première fois, donc c'est beaucoup de travail. Et en même temps, bah, j'avais un bébé, je l'allaitais, etc. Donc, dans ma vie et dans ma tête, il y avait deux énormes choses, les deux que j'attendais depuis longtemps, puisqu'on avait envie d'un enfant depuis pas mal de temps. Moi, j'attendais mon poste, ça faisait presque 4 ans. Et tout m'arrivait au même moment. Et donc, autour de moi, tout le monde, hein, ma famille, mes amis, « Oh, c'est merveilleux, Camille, tout ce qui t'arrive en même temps, c'est super. » Mais moi, dans ma vie, j'étais littéralement sous l'eau, quoi. C'était trop. Trop de travail, trop de pression, trop d'angoisse. Parce que quand on est mère pour la première fois, on est assez anxieuse. Quand on est prof pour la première fois aussi. Enfin, et c'était vraiment très dur à vivre. Et là aussi, ce que j'observe, c'est qu'autour de moi, personne ne s'en soucie. C'est-à-dire, bah, voilà, c'est normal. T'as un enfant, t'es prof, c'est ce que vous avez voulu, vous les féministes, tu dois être super contente. Et moi, enfin, j'étais heureuse bien sûr, mais j'étais aussi très fatiguée, très déboussolée. Bon, et c'est là que je me suis dit, mais c'est quoi cette nouvelle condition des femmes aujourd'hui dans la société ? On doit faire des enfants, on doit s'en occuper, et en même temps, on doit travailler, et surtout, on doit pas se plaindre, et surtout, on doit faire tout ça en souriant et en trouvant ça absolument merveilleux. Je me suis dit, il y a quelque chose. Chose que j'ai pas compris, enfin, il y a quelque chose qui va pas. Donc j'ai commencé à chercher, à vouloir lire ce que des collègues politistes comme moi, ou sociologues, ou philosophes, avaient écrit sur le sujet. Donc on est au début des années 2000. Il n'y a pas beaucoup de choses dans le champ féministe en fait en France. Et comme je travaillais à l'époque sur d'autres sujets qui m'amenaient notamment, enfin je travaillais sur le sujet de la politique et de la religion aux États-Unis. Donc je lisais régulièrement et beaucoup des auteurs et des autrices états-uniennes. Et donc comme je ne trouvais pas en France, je suis allée lire et là je suis tombée sur des livres d'autrices féministes, mais états-uniennes, qui m'ont beaucoup marquée. Et donc j'ai commencé de les lire et puis de commencer de réfléchir moi-même. Et au bout de quelques années quand même, j'ai commencé à écrire un premier texte assez court et puis ensuite me rendant compte que la question qui m'intéressait à l'époque de la maternité était très peu explorée, il y avait rien en termes de livres en tout cas, je me suis dit peut-être que je peux apporter quelque chose dans la discussion et donc j'ai commencé d'écrire ce qui allait être mon tout premier livre qui est paru en 2015, hein, donc vous voyez entre ma grossesse 2002, entre temps troisième grossesse, deuxième arrêt naturel de grossesse, quatrième grossesse, et là c'est ma fille qui est en 2006, plus proche de vous qui a 19 ans. Donc ça prend du temps, tout ça aussi, hein, le fait, voilà. Et puis le fait, le temps aussi d'écrire, c'est ce livre qui est paru en 2015 et qui s'appelle La Révolution du Féminin. Voilà comment je suis, enfin depuis quand je suis féministe. Donc depuis, on va dire 2000 pour faire donner une date ronde, depuis 25 ans.
Quel féministe êtes-vous ?
Je vais vous commencer par une grande, grande question. Parce qu'en effet, le féminisme, c'est une question très pertinente parce qu'il y a beaucoup de féminisme. Moi, je dis souvent que le féminisme, c'est comme une galaxie avec 1000 planètes, et certaines sont très éloignées les unes des autres. Ça veut dire qu'il y a certaines féministes qui sont très éloignées aussi les unes des autres, elles ne sont pas toujours d'accord entre elles. Mais j'aime bien dire que quand on se recule et qu'on regarde de très loin toutes ces planètes, ça fait comme une constellation, mais ça fait une seule et même lumière. Ça veut dire qu'on a toutes le même projet, on vise toutes un peu la même chose, je vais vous dire quoi dans quelques instants, mais les idées et les méthodes pour parvenir à ce qu'on cherche à faire, elles peuvent être très différentes. Alors ce qu'on vise toutes les féministes veulent renverser l'ordre patriarcal du monde. Alors qu'est-ce que ça veut dire l'ordre patriarcal du monde? Quand on parle de système patriarcal, ça renvoie à une organisation de la société qui est très ancienne, qui remonte à l'Antiquité grecque, et qui est fondée sur une idée très simple. Cette idée, c'est que le rôle des femmes dans la société, c'est de porter des enfants et de les élever, et donc de rester dans leur foyer, dans leur famille, pour accomplir ce rôle-là, ce rôle maternel et familial. Ce qui signifie que, du coup, on va les priver de participer à la vie sociale, à la vie politique. Ça, c'est une conception, disons, de l'infériorité des femmes, qui est considérée comme une infériorité de nature. Alors oui, c'est vrai, les femmes portent des enfants, mais dans cette conception, ça suffit à justifier le fait qu'elles n'ont pas le droit de faire quoi que ce soit d'autre, qu'elles sont en quelque sorte enfermées dans cette fonction sociale qu'est la maternité. À partir de cette définition de la vie des femmes, s'est construit un ordre social qui est hiérarchisé. C'est-à-dire qu'on a d'un côté la sphère de la famille, de la vie privée, de la vie domestique, qui est la sphère des femmes et qui est considérée comme inférieure, et la sphère de la vie sociale, politique, publique, qui est la sphère des hommes et qui est considérée comme supérieure. Et c'est cette hiérarchie, les hommes au-dessus et les femmes en dessous, qu'on retrouve ensuite partout dans la société, dans le monde du travail, dans la vie culturelle, dans la vie sportive, dans la vie politique. Et c'est ça qu'on appelle le système patriarcal. Patriarcat, ça vient de patriarche. Le patriarche, c'est le chef de famille. Donc c'est cette idée que les hommes, en tant que chef de famille, dominent leurs épouses, mais aussi dominent la société. Eh bien, ce système-là, qui pendant des siècles et des siècles et des siècles a maintenu les femmes dans une situation d'infériorité, mais aussi une situation d'exploitation, parce qu'on a considéré qu'elles devaient être disponibles, leur corps notamment, leur corps sexuel et leur corps maternel, eh bien, c'est cette situation que les féministes veulent renverser, puisqu'elles réclament de devenir, en fait, des individus comme les autres. Elles réclament de pouvoir, elles aussi, comme les hommes, travailler dans tous les domaines, accéder à des positions éventuellement de pouvoir dans la vie politique, et surtout être reconnues comme les égales des hommes, et non pas comme des personnes inférieures. Donc toutes les féministes, elles veulent arriver à ce résultat, que l'on considère les femmes comme des égales, et que l'on ne fasse plus de hiérarchie entre les hommes au-dessus et les femmes en dessous. Mais pour arriver à cet objectif, il y a plein d'idées et plein de méthodes différentes. Au passage, c'est ce que j'ai voulu montrer dans un gros ouvrage collectif qui vient de sortir, qui s'appelle Théorie féministe, dans lequel, enfin, il fait presque 800 pages, il y a une centaine de personnes qui ont contribué, et c'est pour vous donner une idée de l'ampleur aussi des idées, des luttes et des autrices féministes. Il y en a vraiment énormément. Et moi, dans ce champ-là, je suis à un endroit, je suis une des planètes, voilà, et l'endroit où je suis, c'est une approche, alors c'est un peu compliqué parce que c'est de la philosophie, moi, mon approche est celle de la phénoménologie féministe. Alors c'est un mot compliqué pour dire une chose très simple, la phénoménologie, c'est un courant d'idées qui considère que dans la vie d'un individu, son corps et son esprit, c'est une seule et même chose. Pendant très longtemps, on a considéré que y a le corps d'un côté en bas, le corps qui est aussi du côté des femmes, qui est inférieur, et puis l'esprit, c'est les idées, la pensée, l'intelligence, c'est au-dessus. Mais quand on pense, on pense en tant que sujet qui a un corps, vous êtes d'accord avec moi, c'est difficile de dire je m'arrête de vivre en tant que corps et tout d'un coup je me mets à penser et je suis juste un pur esprit. Non, ça n'existe pas. D'ailleurs, le corps, par exemple, on ne pense pas de la même façon si on a bien dormi, qu'on est en forme et qu'on est en bonne santé comme moi ce matin, ou si on se réveille, qu'on a un énorme rhume, de la fièvre et qu'on est embrumé. On voit bien que le corps et l'esprit, c'est vraiment une seule et même chose. Et la phénoménologie, elle dit que cette dimension incarnée, elle doit être pensée elle aussi. Et donc ça, c'est ma position. C'est-à-dire, je considère que, en tant que philosophe, on peut penser des grandes idées, des grands projets, la démocratie, la liberté. Je ne sais pas qu'est-ce qui soit encore les grands thèmes de philo. Vous verrez ça plus tard, mais c'est souvent des grandes idées très très vastes. Mais moi, dans mon champ et en tant que féministe, je dis que on peut penser des thèmes qui ont l'air de rien ou qui ont l'air pas intéressants. Mais qui sont, au contraire, selon moi, très intéressants. Par exemple, la maternité. Je vous disais tout à l'heure que l'origine de la domination des hommes sur les femmes, c'est le fait de considérer que les femmes, elles sont bonnes que à faire des enfants, et que cette fonction-là, c'est une fonction inférieure. Ben moi, en tant que philosophe féministe, je dis que la maternité, elle peut être pensée comme quelque chose qui contribue à donner du sens aussi à la vie des femmes et aussi du sens à la vie sociale en général. Ça ne signifie pas que je considère que la maternité est au centre de la vie des femmes. Je dis, c'est une option dans une vie de femme, d'avoir des enfants ou pas. Je ne sais pas si vous aviez déjà pensé. Mais moi, mes étudiantes qui sont un peu plus âgées que vous, qui ont 18-19 ans, quand je leur demande, est-ce qu'il y en a parmi vous qui imaginent très bien de ne pas avoir d'enfants et qui s'imaginent avoir une vie avec des projets autres que d'avoir des enfants, ben, y a à peu près un tiers d'entre elles qui lèvent la main. Donc aujourd'hui, si vous prenez 10 jeunes filles de 18-19 ans, ben, y en a 3 ou 4 qui se disent, ben, si ça se trouve, je vais faire quelque chose dans ma vie et je n'aurai pas d'enfants, et ça me va bien comme idée. Et ça, en tant que féministe, ben, on l'accepte et on le comprend. C'est-à-dire, ça veut dire justement que contrairement à ce que disent les hommes depuis toujours, on peut être une femme et avoir des projets dans la vie qui ne tiennent pas, enfin, qui n'incluent pas le fait d'avoir des enfants. Et à l'inverse, en tant que philosophe féministe, je dis aussi, les femmes qui veulent des enfants, et même qui en veulent beaucoup, voire même des femmes qui veulent des enfants puis qui pourraient ne pas travailler, ne plus travailler, pourquoi pas ? C'est une autre option possible. Parce que ça, c'est aussi un des grands... des grandes belles caractéristiques du féminisme, selon moi, c'est de dire, quel que soit le sujet, la maternité, la sexualité, les projets professionnels, etc., ce qui compte, c'est d'obtenir pour les femmes une ouverture la plus grande possible des choix. C'est-à-dire, l'idée, c'est, par exemple, je reprends le thème de la maternité, bah, d'un côté, il y a des femmes qui ne veulent pas d'enfants, il faut rendre ça possible. Et il ne faut pas les discriminer, il ne faut pas les juger pour ça. Et puis à l'autre bout, bah, y a des femmes qui veulent beaucoup d'enfants puis qui ne veulent plus travailler. Même chose, il faut rendre ça possible, il ne faut pas les juger pour ça. Puis entre les deux, il y a toutes les options. Il y a des femmes qui veulent des enfants en couple avec un homme. Il y a des femmes qui veulent des enfants toutes seules. J'en ai rencontré beaucoup parce que j'ai fait un travail sur la grossesse. Justement, j'ai rencontré beaucoup de femmes qui menaient un projet d'enfant toutes seules grâce à la procréation médicalement assistée. Vous savez ce que c'est, la PMA ? Ben, c'est la possibilité d'être inséminée, mais à l'hôpital, en fait, sans avoir forcément une relation avec un homme. Ça permet notamment à des couples de femmes aussi d'avoir des enfants. Je vous balance des tas de trucs comme ça. Je ne sais pas si c'est trop ou si ça vous questionne, mais si vous avez des questions ou des choses que vous ne comprenez pas, vous me dites, hein, vous faites comme ça, et puis je vous explique. Parce que c'est vrai que moi, je suis habituée à parler plutôt devant des personnes un tout petit peu plus âgées que vous. Donc, je ne me rends pas bien compte des choses que vous connaissez, que vous ne connaissez pas, que vous ne comprenez pas. Donc, il ne faut pas...
Au pire, je vous prendrai après, je prendrai avec elle après s'il n'y a pas de...
Non, mais je suis là pour ça aussi. Hein, et ça va, vous suivez bien ? Vous avez bien compris cette idée de tous les choix. Voilà. Et donc, moi, dans le champ féministe, pour revenir à la question quel féministe je suis, ben, je suis une féministe qui travaille spécifiquement et qui est attachée à toutes les thématiques qui ont trait au corps des femmes. Voilà. Il y en a d'autres qui travaillent, par exemple, il y a des féministes qu'on appelle intersectionnelles. Elles, leur combat, c'est surtout de montrer que quand on est... de dire « nous, les femmes », ça ne veut rien dire. Et qu'il y a des différences entre femmes. Et qu'il y a plusieurs facteurs d'oppression, c'est-à-dire notamment montrer que les femmes qu'on appelle racisées, ça veut dire les femmes qui ne sont pas blanches, qui sont noires ou quelle que soit la couleur de leur peau, ben ces femmes-là, leur expérience dans le monde, elle est différente aussi des femmes blanches, parce que les femmes blanches, par rapport aux femmes noires, par exemple, elles sont plus privilégiées dans des tas de domaines. Donc il y a des féministes qui s'appellent intersectionnelles qui essayent de travailler, de lutter pour qu'on comprenne bien que la vie des femmes dans une société, elle peut être très différente et qu'il faut donc être attentif au fait que certaines femmes, par exemple aussi je pense aux femmes qui sont en situation de handicap, elles ont plusieurs facteurs de discrimination, parce qu'elles sont femmes, donc elles sont rabaissées en tant que femmes, mais elles sont aussi femmes handicapées, elles peuvent être rabaissées aussi en tant que personnes handicapées. Donc ça fait deux motifs de les rabaisser et de les discriminer. Voilà.
Avez-vous un modèle féminin dont vous aimeriez nous parler ?
Alors, un modèle féminin, alors c'est compliqué parce que mon premier réflexe en tant qu'enseignante-chercheuse, c'est que je pense à une autrice. Donc, il y a une philosophe états-unienne qui s'appelle Iris Marion Young, qui est cette autrice que j'ai découvert quand je vous racontais tout à l'heure que, comme je ne trouvais pas de livres en français, j'avais trouvé des autrices états-uniennes. Et donc, c'est une philosophe qui écrivait au début des années 2000. Et cette femme, elle est très importante dans mon parcours parce que vraiment, quand je l'ai lue, ça a été une révélation. Et c'est là que j'ai rencontré, en quelque sorte, une pensée avec laquelle je me sentais proche, enfin, en affinité. Ça, c'est quelque chose de magique dans la vie. J'espère que ça vous arrivera. On lit un livre un jour et on a l'impression que la personne qui a écrit ce livre, elle l'a écrit pour vous. Donc, voilà. Donc, il y a cette philosophe qui s'appelle Iris Marion Young, comme jeune en anglais. Mais bon, ce n'est pas un modèle, c'est une inspiratrice, voilà, c'est une théoricienne qui m'inspire et qui m'accompagne encore aujourd'hui dans ce que je fais. De femme en tant que modèle, il faudrait que je trouve peut-être des modèles qui vous parlent davantage, où vous puissiez... Alors, moi j'aime beaucoup les chanteuses. J'écoute quasiment que des femmes qui chantent, comme les artistes musicaux que j'aime bien, c'est plutôt des femmes. Donc, y a des, par exemple, alors c'est pas un modèle, mais disons que c'est des personnalités de chanteuses que j'aime bien écouter, que j'aime bien regarder aussi, que j'aime bien voir danser, parce que j'aime beaucoup la danse aussi. Donc parmi, je cherche des personnes qui pourraient... Moi j'aime beaucoup Billie Eilish, vous voyez qui c'est, cette chanteuse états-unienne. J'aime vraiment beaucoup parce que non seulement je trouve qu'elle a une très belle voix, très originale, mais elle est très originale aussi dans sa façon de s'habiller. J'aime bien cette personnalité. Elle s'habille justement pas forcément de façon girly, c'est parfois... voilà, et parfois elle est critiquée pour ça justement. Et j'aime bien ce qu'elle incarne pour les jeunes femmes d'aujourd'hui, de dire bah, en fait, je m'habille comme je veux, et si je mets des choses très baggy, machin, et me teindre les cheveux en vert, bah, ça me regarde. Il y a elle que j'aime bien. Alors chez les Françaises, et plus récente, il y a Zao de Sagazan. Vous voyez qui c'est ? Elle a chanté pour les Jeux Olympiques. Elle a les cheveux blonds, platine. J'aime bien. Puis il y a aussi Juliette Armanet, mais elle est un peu plus âgée, donc je ne suis pas sûre que vous la connaissiez. Peut-être plus. Juliette Armanet, ça vous dit pas ? Bon. Voilà. En fait, moi, j'aime bien les femmes qui sont des modèles pour moi. C'est des femmes qui ont cette capacité, parce que c'est pas évident du tout, moi par exemple, pour moi c'est pas évident, mais moi je me suis toujours dit, mais être sur une scène, être regardée par des centaines, voire des milliers de personnes, avoir tout son corps scruté, etc., waouh, il faut une sacrée force de caractère pour vivre ça. Et puis sinon, dans ma vie plus personnelle, c'est ma grand-mère paternelle qui a été un modèle pour moi. C'est une femme, elle est née en 1910, Elle est morte depuis longtemps, mais quand j'ai commencé mes études à Paris, j'habitais dans une chambre de bonne près de chez elle et je la voyais souvent. Et c'est une femme qui était sculptrice, elle avait fait les beaux-arts, et donc ça, pour sa génération, c'était très rare. Puis ensuite, elle s'est mariée et elle a eu 6 enfants. Et en fait, comme toutes les femmes de sa génération, ben finalement, elle a plus travaillé, elle a plus pu pratiquer son art, elle a dû s'occuper de ses enfants, parce que justement, à une époque où il n'y avait pas de machine à laver, où il n'y avait pas de couches jetables, etc. Et j'avais des grandes discussions avec elle, et je l'admirais beaucoup, et c'était un modèle pour moi.
Si vous aviez une baguette magique féministe, que changeriez-vous en premier ?
J'ai qu'un choix, c'est ça qui est dur. En premier, c'est la chose la plus... Eh bien, je ferai en sorte que ce que prévoit la loi, à savoir 3 heures d'enseignement à la vie relationnelle, affective et sexuelle, à l'école primaire, au collège et au lycée, chaque année, ces 3 heures soient assurées dans toutes les écoles et tous les collèges et tous les lycées de France. Parce que c'est très important, je pense, vous êtes 6 filles, hein, il n'y a pas de hasard. Toutes ces questions-là, c'est des questions qui intéressent les filles. Or, le problème, c'est les garçons. Et donc, comment on fait pour que les garçons soient sensibilisés à ces questions ? Comment on fait? Là, par exemple, vous écoutez tout ce que je vous raconte. Est-ce qu'il y a des garçons dans votre collège qui vont écouter votre émission de Radio Paulette? Je ne sais pas. Comment ça se passe?
Il faut que les profs s'en emparent et puis diffusent.
C'est ça. Ouais. Et donc, il y a une loi, il y a un dispositif qui s'appelle l'enseignement à la vie affective, relationnelle et sexuelle. Et normalement, à chaque année d'école, depuis le CP jusqu'à la terminale, chaque année, vous devez avoir 3 heures de séance de cette matière d'enseignement à la vie. Bon, je ne sais pas, vous en avez déjà eu, ne serait-ce qu'une. C'est la loi, ça doit être obligatoire. Donc depuis l'année dernière, ça a été relancé, il y a eu un programme qui a été défini, etc. Mais voilà, ça, moi, ça fait des années que je lutte pour ça, parce que en fait, c'est les petits garçons, dès le CP, à qui on doit commencer d'apprendre, par exemple, qu'une cour de récréation, elle est à tout le monde, et que jouer au foot au milieu, c'est pas réservé aux garçons, et qu'il peut y avoir des filles. Qui ont envie d'aller au milieu jouer au foot, ou qu'il peut y avoir des garçons qui ont juste envie d'être sur le côté pour discuter avec des filles, etc. Enfin bref, il y a en fait ce qu'on appelle les stéréotypes de genre. Vous connaissez cette notion? C'est-à-dire toutes ces idées selon lesquelles les filles, elles sont gentilles, calmes, timides, silencieuses, polies, etc. D'un côté, elles ne bougent pas, elles restent à leur place. Et puis de l'autre, les garçons, eux, ils sont actifs, bavards, bruyants, dynamiques, etc. Tout ça, c'est des stéréotypes. On enferme les filles dans un modèle. Regardez comment on se tient. Alors, sauf toi. Mais on a toutes... y compris vos enseignants. Voilà, on est toutes là, les jambes croisées, bien, parfois les doigts aussi, bien, bien compacts, bien... Voilà. Vous avez déjà vu comment dans le bus ou à l'école, les garçons se tiennent? Un garçon, il aurait été comme ça, il aurait écarté les jambes, il serait tenu comme ça. Alors, ils prennent de la place, ils prennent de l'espace, parce qu'on les a autorisés à prendre cette place. On leur a dit, mais vas-y, cours! Prends de la place, bouge. Et les filles, non, tu restes à ta place, t'es gentille, t'es calme et tout. Et ça, c'est des choses qui, c'est une sorte d'apprentissage. Personne ne vous a dit un jour, tu dois croiser les jambes et te tenir comme ça. Mais en revanche, il y a plein de signaux. Par exemple, de dire qu'une fille ne porte pas un short, ce que ça veut dire derrière aussi, c'est qu'elle ne court pas. Parce qu'on met un short quand il fait chaud, mais aussi on met des shorts pour faire du sport, courir, etc. Donc moi, je trouve hyper important qu'on parvienne à changer la façon dont, enfin, à changer ces stéréotypes de genre et à s'en débarrasser, en fait, pour qu'on élève les filles et les garçons exactement de la même façon.
Radio Paulette, écoutez, vous coucherez moins bête.